Alors, avant de voir notre mission prophétique, après avoir vu le sacerdoce baptismal, je voudrais simplement insister sur la manière dont nous pouvons entrer progressivement dans cette sagesse de la croix et vivre les épreuves, les contradictions de la vie avec Jésus, en soulignant une affirmation du Concile Vatican II, qui est très éclairante, disant que les fidèles se sanctifieront dans toutes les circonstances de leur vie. C'est sûr qu'on peut se sanctifier dans toutes les circonstances de la vie, puisque Dieu fait tout contribuer à notre bien, c'est-à-dire à notre sanctification. Et il veut aussi faire tout contribuer à travers nous au salut du monde. Donc, il ne devrait rien y avoir de perdu dans notre vie. Aucune chose ne devrait être vaine du moment que nous les vivons avec Jésus. Si je puis dire, on récupère tout. Même les souffrances liées à nos propres péchés, les tristesses qu'on peut éprouver à cause de nos péchés. Bref, il y a bien des choses qu'on ne pense pas vivre avec Jésus, qu'on pourrait vivre avec Jésus. Donc le Concile dit que les fidèles se sanctifieront dans toutes les circonstances de leur vie, à condition de recevoir toute chose de la main du Père, dans la foi. Et ensuite, il parle de la charité. Mais la foi, l'attitude de foi vient en premier. C'est-à-dire si, en définitive, c'est l'abandon qui est rédempteur. Si nous voulons suivre Jésus sur le chemin d'un abandon rédempteur pour donner une valeur rédemptrice à toutes nos actions, ça repose sur la foi, la confiance en un Dieu Père qui est le maître du monde, de l'histoire du monde et de l'histoire de nos vies, qui tient toutes choses dans sa main. Regardons Jésus lui-même au Jardin des Oliviers. Ce qu'il vit, c'est directement lié au péché des hommes, à la jalousie des grands prêtres, à la lâcheté des apôtres, à la trahison de Judas. Et il ne voit qu'une chose, que la main du Père. Que cette coupe, si c'est possible, que cette coupe passe loin de moi, il ne voit que la coupe que lui tend le Père. Alors que tous ces événements sont liés directement au péché des hommes, contraire donc à la volonté de Dieu. Donc, au lieu de nous arrêter au côté injuste des choses, humainement injuste, de croire que Dieu tient malgré tout les choses dans sa main, que rien n'échappe à sa providence, c'est-à-dire en réalité à son amour miséricordieux. Un amour miséricordieux qui assume tout et qui est toujours capable de transformer le mal en un bien plus grand. Parce que comme l'Église nous demande de le croire, Dieu ne permettrait pas le mal s'il ne pouvait en tirer un bien plus grand. Donc nous devons suivre Jésus en nous appuyant sur la foi, sur cet acte de foi, que nous ne sommes pas livrés au pouvoir du péché, ni de nos péchés, ni du péché des autres, mais qu'il y a un amour qui mène le monde, et qui est un amour sauveur, miséricordieux, c'est-à-dire capable d'assumer la misère humaine, toutes les conséquences du péché, pour ouvrir un chemin de vie, de résurrection. Actuellement, je crois que c'est là où le bât blesse dans le peuple chrétien. On a mis Dieu hors jeu, avec, une, comme l'a dit Benoît XVI, une pauvre apologie, une bien pauvre apologie consistant à dire qu'en réalité, si le mal existe, c'est Dieu n'y est. Dieu n'a rien à voir avec tout ça, un Dieu qui, comme dirait Benoît XVI, dont le pouvoir s'arrête là où commence le pouvoir du mal. Mais si le pouvoir de Dieu s'arrête là où commence le pouvoir du mal, où est notre espérance? Ce n'est pas vraiment une aide, voyez, quand on est face à des personnes malades, très éprouvées, de mettre Dieu hors jeu pour dédouaner Dieu, pour justifier Dieu, si je puis dire. Il faut garder le sens de la providence divine, c'est-à-dire d'un amour tout-puissant qui, tout en respectant infiniment la liberté, malgré tout, intègre tout. Cette vision d'un amour tout-puissant qui intègre tout, nous la puisons aussi dans la contemplation de la croix, c'est-à-dire d'un amour qui, de fait, assume tout et transforme tout et donc est capable de transformer le mal en bien. Et Jean-Paul II aimait dire que la miséricorde divine mettait des limites au mal, C'est sûr que si elle ne mettait pas de limites au mal, il y a longtemps que nous serions tous, l'humanité serait détruite par la conséquence de ses fautes. Et le mal qu'elle laisse, qu'elle permet, c'est dans la limite de la sagesse divine, c'est-à-dire d'une miséricorde qui ne permet que pour autant, qu'elle peut en tirer un bien. Il faut aussi se rappeler que l'épreuve est nécessaire. Abstraction faite de la question du péché et de la rédemption, la vie sur terre est une épreuve. Notre vie sur terre, dès l'origine, elle est l'épreuve de la liberté. Donc, l'épreuve, c'est plus large que la souffrance. La souffrance est une épreuve, mais l'épreuve, c'est plus large. C'est l'épreuve de la foi, l'épreuve de la confiance, l'épreuve de l'espérance, l'épreuve de l'amour aussi, qui est amenée à grandir de cette manière-là. Et vous avez bien des textes dans l'Écriture qui nous rappellent la nécessité des épreuves pour grandir dans la foi. Je pense notamment à 1 Pierre 1:6. Il vous faut encore quelque temps être affligé par diverses épreuves, afin que bien éprouvée, votre foi, plus précieuse que l'or périssable que l'on vérifie par le feu, devienne un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous avez aussi dans l'épître de Saint Jacques au début, « Tenez pour une joie suprême, mes frères, d'être en but à toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, bien éprouvé, votre foi produit la constance. » Vous pouvez aussi vous référer à Romains 5 pour voir que l'épreuve aussi nous fait grandir dans l'espérance. Nous nous glorifions encore des tribulations, sachant bien que la tribulation produit la constance. La constance, une vertu éprouvée. La vertu éprouvée, l'espérance. Et l'espérance ne déçoit point parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Donc le fruit mûr de la charité qui vient, la souffrance approfondit l'amour en approfondissant la foi et l'espérance. Le père Thomas Philippe aimait souligner que la Vierge Marie elle-même a eu besoin d'épreuves pour grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Donc, si nous sommes éprouvés, ce n'est pas nécessairement d'abord pour nous corriger, même si, de fait, Dieu nous corrige à travers les épreuves aussi, mais il n'y a pas que cette signification-là, aux épreuves de la vie, elles sont de toute façon nécessaires pour la croissance des vertus théologales. Elles ont donc, j'ai envie de dire, une triple signification pour nous pécheurs. Une signification donc de la matière d'une croissance de la foi, de l'espérance et de l'amour. Une signification purificatrice pour nous. Dans l'Épître aux Hébreux, vous trouvez textuellement, c'est pour votre correction que vous souffrez. Dieu éprouve ceux qu'il aime parce qu'il corrige ses enfants comme un père. Et elle a enfin une valeur aussi rédemptrice, comme je l'ai souligné. Dans la tradition de l'Église, on distingue les souffrances purificatrices des souffrances rédemptrices. C'est sûr que une Marthe Robin a vécu ce qu'elle a vécu dans une, je dirais, une communion aux souffrances de Jésus pour le salut du monde. Ce n'était pas de sa purification dont il était question, mais c'était de porter avec Jésus quelque chose du péché du monde. Mais en même temps, ça a été pour elle la matière d'une croissance dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Pour nous, pauvres pécheurs, il faut penser qu'il y a une valeur purificatrice, mais le fait que nous ayons besoin d'être purifiés par les épreuves, les souffrances de la vie, ne doit pas nous empêcher de les offrir, parce qu'on ne se purifie jamais soi seul, on entraîne d'autres âmes avec nous. Donc les croix purificatrices, les épreuves purificatrices ont aussi une valeur rédemptrice. Voilà ce que je voulais vous dire. Et nous ne sommes pas obligés de vouloir chercher à comprendre tout de suite pourquoi le Seigneur envoie telle épreuve et qu'est-ce qu'il veut corriger en nous, même si de fait très souvent il y a matière à mieux voir son péché. Je l'ai vu très souvent à l'hôpital, des personnes malades prendre, ouvrir les yeux sur des péchés qu'ils avaient commis il y a très longtemps. Donc il y a bien une valeur éducatrice et correctrice de la souffrance, mais cette lumière se fait progressivement. Si nous commençons à chercher à nous juger nous-mêmes, les personnes âgées me disaient « mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour tomber malade comme ça ?» Si nous cherchons à nous juger nous-mêmes, nous sommes forcément, je dirais, dans ce que nous avons entendu ce matin comme parole, c'est-à-dire dans un jugement prématuré. Ne portez pas de jugement prématuré, mais laissez venir le Seigneur, laissez venir la lumière sur vous-même, sur votre vie. Il y a un proverbe latin qui dit « ad lucem per crucem », à la lumière par la croix. La lumière sur notre vie, la lumière aussi sur l'appel de Dieu, la lumière sur notre vocation, la lumière sur des horizons, des chemins nouveaux que le Seigneur veut ouvrir à travers les épreuves de la vie. Si on veut passer des seuils dans notre vie, nécessairement ça passe par des crises, entre guillemets, par des moments où nous sommes, désinstaller. L'épreuve, c'est aussi quelque chose qui nous empêche de nous accoutumer, de nous adapter au monde. Elle nous remet en situation d'étranger et de voyageur dans ce monde. Elle nous oblige à passer des seuils et à nous ouvrir à des chemins nouveaux. Il y a une belle image que je voudrais vous laisser, que j'ai trouvée chez Benoît XVI, celle du pressoir, une image traditionnelle. Le vin, quand il est pressé, c'est l'image des situations dans lesquelles nous nous sentons complètement perdus, nous ne voyons pas d'issue, nous ne voyons pas plus le sens que nous pouvons donner à notre vie. Tentation du désespoir, du découragement. Et Benoît XVI souligne que ce vin qui est pressé dans l'épreuve, eh bien, ce raisin qui est pressé dans l'épreuve, le pressoir de la croix, il en sort un vin merveilleux. Il en sort un vin merveilleux. Ça, c'est la miséricorde divine qui fait ça. Il y a de fait un processus mystérieux de purification, de transformation, qui fait qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut naître en nous. Entrer dans la logique de la croix en vivant pleinement notre sacerdoce baptismal, c'est aussi entrer dans la compassion, c'est entrer dans cet amour qui nous sauve, qui est l'amour du cœur de Jésus, cet amour miséricordieux qui assume et consume le mal du péché. On ne peut pas consumer ce qu'on n'assume pas. Quand saint Paul dit « Portez le fardeau les uns des autres », portez le fardeau les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ, la loi de l'amour le plus grand. Porter le fardeau de l'autre, c'est accepter de porter quelque chose du poids de sa faute. Nous ne le portons pas comme Jésus le porte parce que nous n'avons pas la même pureté d'amour. Jésus a porté le mal du péché avec toute la profondeur de son union au Père. Plus on est uni à Dieu et plus on ressent le mal du péché. Et plus donc on peut le porter en profondeur. Nous le portons à notre mesure. Mais porter le fardeau les uns des autres, c'est rentrer dans un cœur de miséricordieux qui accepte de souffrir à cause de l'autre pour l'autre. Offrir à Jésus la souffrance que nous causent nos frères et sœurs, les injustices, les humiliations, l'offrir à Jésus pour qu'il accomplisse son œuvre de rédemption. Pas de plus grand amour que de donner sa vie. Il est là, le vrai don de notre vie. Il n'est pas à chercher dans des actions héroïques, dans lesquelles nous nous laisserions aller à une générosité folle, en pensant faire beaucoup pour Dieu et pour les autres. Il est dans cette patience, portée avec patience, humilité, douceur, fardeau les uns des autres. Supportez-vous les uns les autres avec humilité, douceur, patience. Ce qu'on appelle les vertus évangéliques. C'est les vertus que Jésus a vécues dans sa passion, qui nous permettent de rentrer dans sa charité. Donc, vous voyez, il y a une manière tout simple de porter la croix et de vivre la rédemption dans les relations entre nous, c'est de porter, de nous supporter, comme Jésus, en suivant Jésus, en mettant à l'école du cœur de Jésus, doux et humble, patient. Je vous rappelle ce qu'a dit sainte Thérèse d'Avila, la patience obtient tout. Les psychologues le disent, il ne faut pas chercher à changer l'autre, il faut changer soi-même, puis l'autre change. Mais nous avons une arme secrète, qui est celle de la charité de l'amour le plus grand, qui porte avec Jésus. Et c'est ça la vraie puissance transformatrice de la réalité. Parce que c'est à ce moment-là un amour sauveur qui agit. Vous savez que Benoît XVI aime bien parler de cet amour sauveur qui est celui du cœur de Jésus en reprenant l'image de l'explosion atomique. l'Eucharistie nous attire dans l'offrande de Jésus. Nous ne recevons pas simplement le Logos incarné de manière statique, mais nous sommes entraînés dans la dynamique de son offrande. Il nous attire à lui. La conversion substantielle du pain et du vin en son corps et en son sang met dans la création le principe d'un changement radical comme une sorte de fission nucléaire. Pour utiliser une image qui nous est bien connue, portée au plus intime de l'être. Le mal que Jésus a, je dirais, auquel Jésus a été confronté dans sa passion, tout ce poids de la haine et du péché qui est dans le cœur de l'homme, que Jésus a reçu en pleine poitrine, si je puis dire, en plein cœur, Jésus l'a retourné, ce mal, en un acte d'amour plus grand encore. Précisément, il nous a aimés jusqu'à la fin, jusqu'à donner sa vie pour nous pécheurs. Et cet acte par lequel le Christ a accepté la coupe, dans une offrande de lui-même au Père, conscient que par son obéissance, bien, il accomplirait ainsi la mission du Père comme sauveur. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Cet acte libre intérieur au fond de son cœur dans lequel il a prononcé son oui, non pas ma volonté mais la tienne, Benoît XVI la compare à une fission nucléaire parce que ça s'est passé dans l'intime du cœur. Cette fission nucléaire, elle se renouvelle à chaque Eucharistie parce que le sacrifice de Jésus est renouvelé. Et cette fission nucléaire, elle est dans notre cœur, elle peut se réaliser dans notre cœur aussi à nous. Par fission nucléaire, Benoît XVI reprend l'image de du fait que c'est l'explosion atomique, c'est ce qu'il y a de plus. C'est l'intime de la matière, c'est quelque chose qui est d'une, je dirais, infime, et qui peut dégager une énergie incroyable. Ce qui se passe dans le cœur des saints, dans l'intime de leur communion au Christ, une puissance de transformation. Ici, repensons à ce qui s'est passé au moment de la mort de Jean-Paul II, ce qu'il a vécu dans l'intime de son cœur, en allant jusqu'au bout de l'offrande de lui-même, dans le secret, a dégagé une puissance de transformation dont nous avons été témoins, qui a fait un bien fou pour l'Église et pour le monde. Et tout ça, ça se décide dans le secret. Benoît XVI en a parlé à Cologne aussi. Je vous invite à relire le discours qu'il a fait aux jeunes à Cologne. Il parle d'une explosion intime du bien. Explosion intime de l'amour. Un amour qui est victorieux du mal. Un changement destiné à susciter un processus de transformation de la réalité, dont le terme ultime sera la transfiguration du monde entier. Un processus de transformation par une sorte de chaîne de transformation successive. Et on voit que ce processus de transformation se continue même après la mort des saints. Il n'arrête pas de porter du fruit et de rayonner. Ce rayonnement sur la vie du monde est celui de la charité divine dont ils ont vécu et qui est celle dans le cœur du Christ et par lequel le monde est sauvé. Si vous voulez, nous retrouvons ici, par rapport à ce qui fait la vraie valeur et le vrai sens de notre vie, ça se joue dans l'intime. Il ne faut pas la chercher loin, la fécondité. Elle se joue dans notre cœur, là où, comme dit le catéchisme, tout se noue et se dénoue. Et ça, c'est profondément libérant et c'est plein d'espérance. Si nous mettions notre espérance dans la croix, comprenant en profondeur cette logique et cette sagesse, qui est celle du Christ, celle de Dieu, eh bien,
non seulement nous saurions profiter de tout, mais nous serions toujours, pourrions toujours de toute difficulté, je dirais, sortir vainqueur et trouver la matière à une action transformatrice du monde. Pour entrer dans cette logique, je vous invite aussi à faire une distinction entre l'efficacité immédiate de l'action, ce que je peux faire concrètement pour les autres. Par exemple, je peux, moi en vous enseignant, je peux vous faire comprendre intellectuellement certaines choses. Ça, c'est à mesure humaine. Si j'explique bien, si je fais un bon cours, vous allez bien comprendre, vous serez convaincu intellectuellement. Et ça, ce n'est pas de l'ordre de la fécondité spirituelle. C'est d'ordre d'une efficacité à mesure humaine. Si je faisais un cours de mathématiques, ce serait encore plus évident. Et quand Jésus dit « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire », celui qui demeure en moi et celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, il se situe au niveau de la fécondité spirituelle, qui n'est pas du même ordre que de l'efficacité immédiate calculable. Cette fécondité spirituelle, elle est de l'ordre précisément de l'explosion atomique, c'est-à-dire d'un rayonnement secret, d'un amour qui transforme, qui laisse passer la lumière dans le monde, qui purifie, qui est l'amour sauveur. Et ça, donc, ça, cette fécondité, comme dit Jésus, le royaume de Dieu, la venue du royaume de Dieu ne se laisse pas observer. Cette fécondité, on n'a pas de... elle ne se laisse pas calculer et on n'en voit pas... on ne voit pas visiblement l'efficacité divine, hein, de cette charité divine. C'est dans la foi. Une petite Thérèse, elle a accepté d'entrer dans cette logique sans jamais voir finalement le fruit de l'immolation silencieuse de son âme, mais elle a cru en l'amour. Et finalement, elle disait, j'ai tout parié sur l'amour, la fin de sa vie. C'est là aussi où on peut se rappeler, ne portez pas de jugement prématuré. Certains peuvent donner l'impression de porter beaucoup de fruits et d'être comme des grands arbres qui se déploient en déployant tous leurs talents. D'autres peuvent avoir l'impression d'avoir une vie ratée parce que, apparemment, il n'arrive à rien. Pensez à un saint Benoît Labre, rejeté du séminaire au bout de 4 ans, plusieurs essais de vie monastique, terminant SDF à Rome. Quelle vocation! Quand il est mort, les enfants ont crié « Le saint est mort, le saint est mort ». C'est comme ça que le clergé romain a été alerté. Et il suivait le catéchisme avec les clochards de l'époque, lui qui avait fait 4 ans de théologie. Et puis il mendiait l'Eucharistie, c'était un amoureux de l'Eucharistie, une époque où on ne donnait pas la communion facilement. Et c'est lui qui a été canonisé, ce n'est pas les cardinaux de l'époque, les grands princes de l'Église. La vraie fécondité, la vraie réussite d'une vie, c'est un mystère. C'est lui qui brille comme un astre pour l'éternité dans le ciel, qui continue à éclairer les âmes et à faire du bien. Ce n'est pas ceux qui avaient le pouvoir à l'époque dans l'Église. À la même époque, d'ailleurs, à Naples, il y avait un dicton qui disait « Si tu veux te damner, fais-toi prêtre. Fais-toi prêtre. » Tellement la mondanité avait pénétré le clergé. Pour ça, peut-être que Dieu a suscité des saints du XVIIIe siècle, des saints, je dirais, méprisés par le monde. tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura des surprises là-haut. Et je dis, on s'éviterait bien des souffrances si on ne portait pas de jugement prématuré sur la valeur de notre vie. On ne sait pas quel est le vrai poids d'amour qu'il y a dans nos actes, ni quelle est leur véritable efficacité pour l'éternité, pour le salut. Je fais aussi remarquer qu'il n'y a que cette fécondité spirituelle qui reste pour l'éternité, précisément. Ça, ce sera le... Dieu jugera de nos actions selon le vrai fruit. Il ne jugera pas de nos actions selon l'efficacité humaine immédiate de laquelle nous serons plus ou moins glorifiés, vainement, en nous glorifiant de ce qui est visible, au lieu de croire à l'invisible, de mettre notre gloire dans ce qui est caché, de mettre notre gloire dans la croix. Voilà la sagesse à laquelle nous sommes appelés. Juste encore une petite note par rapport à cette sagesse de la croix qui est vraiment tellement essentielle, c'est que les petits sacrifices volontaires, les petits renoncements que l'on peut faire, la mortification volontaire, tout ça, c'est pour nous donner la force de vivre avec Jésus les croix véritables qui sont celles qu'on n'a pas choisies. Évidemment, l'Église a toujours dit que les premières croix, c'est d'abord celles qui s'imposent à nous par les événements de la vie. Mais il y a une tradition ascétique, une tradition de mortification volontaire qui est là comme une force dans le combat spirituel. On jeûne et on prie pour être plus fort dans le combat. Soyez sobre en vue de la prière, dit saint Pierre. On jeûne et on prie parce qu'on sait que ça va nous aider à garder la foi, l'espérance et la charité éveillées et à bien prendre la balle, si je puis dire, à ne pas être pris par surprise au moment où la croix viendra nous visiter. Alors, essayons de voir maintenant par rapport au sens de l'agir chrétien, la manière de vivre notre agir dans le Christ. Essayons de regarder plus en profondeur notre vocation prophétique. Nous ne sommes pas simplement prêtres, mais prophètes par notre baptême. Ici, il me revient les paroles de l'Apocalypse, chapitre 12, à propos de ceux qui sont appelés les frères de Jésus. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, et ils ont vaincu l'accusateur, Satan, le diable. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné, car ils ont méprisé leur vie, littéralement, ils n'ont pas aimé leur âme jusqu'à mourir. Mais ici, nous avons une distinction, voyez, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, ça c'est en épousant la croix, en épousant Jésus dans les croix, et par le témoignage et par la parole dont ils ont témoigné. Ça, c'est la vocation prophétique. D'où 11. C'est notre vocation prophétique parce que Jésus nous sauve du pouvoir du mal par sa vérité, par la lumière qui chasse les ténèbres. Parce que tout péché se nourrit du mensonge. Tout péché est l'œuvre des ténèbres. Et pour nous libérer de l'emprise du péché, Jésus veut nous éclairer, faire rentrer sa lumière dans le monde, pour libérer les âmes du pouvoir des ténèbres. Satan, c'est le père du mensonge. C'est, je crois, Sainte Thérèse d'Avila qui dit que derrière tout péché se cache un mensonge, en tout cas dans le catéchisme de l'Église catholique, précisément au moment où on parle du péché originel, mettant en lumière que le péché originel il est sur le fond d'un mensonge sur Dieu qui a réussi à semer le doute dans le cœur d'Adam et Ève. Et à ce sujet-là, dans la lumière du péché originel, le catéchisme de l'Église catholique nous dit que tout péché, par la suite, sera une désobéissance à Dieu et un manque de confiance en sa bonté, mais précisément sur fond d'une fausse image de Dieu, d'un mensonge. Ils ont eu peur de ce Dieu car ils ont conçu une fausse image, celle d'un Dieu jaloux de ses prérogatives. Le premier mensonge, il est sur Dieu. Précisément, l'homme moderne est enchaîné au péché par ce mensonge sur Dieu, puisqu'il voit Dieu comme un danger pour la réalisation de son humanité. C'est ce que je vous disais au début, le drame de l'humanisme athée. Drame de l'humanisme athée qui se nourrit aussi d'un témoignage qui a manqué de chrétiens qui ont parlé de Dieu tout en vivant contre Dieu, comme dit le cardinal Ratzinger dans le discours que je vous ai cité, qui fait que le visage de Dieu aussi a été défiguré par ceux qui devaient témoigner de lui. Pour Benoît XVI, l'avenir de l'humanité va dépendre de la manière dont l'Église saura rendre à nouveau présent dans le monde le vrai visage de Dieu, c'est-à-dire témoigner de la vérité de Dieu d'abord. Pour vaincre le péché à la racine, parce qu'à la racine du péché, il y a le mensonge sur Dieu. Et donc, quand il écrit sa première encyclique sur la charité, il voit la charité d'abord sous cet angle, finalement, de notre vocation prophétique. En fait, il n'y a que la charité qui porte du fruit. Qu'on soit prêtre ou prophète, on ne peut agir de toute façon d'une manière féconde qu'en étant mu et inspiré par la charité. Parce qu'en dehors de la charité, on ne peut rien faire. Mais dans la deuxième partie de son encyclique, après avoir parlé de la purification, de la guérison de l'éros humain et la manière dont la charité divine devait finalement sauver notre humanité marquée par les conséquences du péché, l'exercice de l'amour de la part de l'Église, l'exercice de la charité, il commence par citer saint Augustin. Tu vois la Trinité quand tu vois la charité. Ça, c'est la vocation prophétique. Être lumière pour le monde, une lumière qui sauve, c'est laisser voir le vrai visage de Dieu. Un Dieu est amour. Tu vois Dieu quand tu vois la charité. Ici, nous sommes vraiment au cœur de l'Évangile, de la mission que Jésus confie à ses apôtres. Vous êtes la lumière du monde. On ne n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, votre lumière doit-elle briller devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, on peut traduire en grec vos belles œuvres, et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Autrement dit, je veux que
Ici, c'est la petite Thérèse qui commente en disant que cette lumière, c'est la lumière de la charité. Je veux que le feu de l'amour divin que je suis venu répandre dans vos cœurs et allumer dans vos cœurs, que cette flamme ne reste pas sous le boisseau, mais qu'elle puisse de fait resplendir à travers des actions, des paroles et des actions concrètes qui soient vraiment lumineuses, inspirées par l'amour, et qui laissent voir l'amour. C'est parce que nous avons un corps, le lampadaire c'est le corps humain. C'est les actions concrètes qui rendent visible la charité que Dieu a mise au fond de notre cœur, qui ne doit pas rester au fond de notre cœur, mais qui doit se laisser voir à travers nos actions. Donc, c'est ici aussi qu'il faut croire à l'amour, à la puissance évangélisatrice de l'amour, d'abord, comme étant la seule réalité qui puisse réellement laisser voir Dieu. On est prophète d'abord par le témoignage, c'est-à-dire témoignage de ce que nous sommes, de la manière dont nous vivons, notre comportement, tout doit être lumineux. Ce corps lumineux dont Jésus parle aussi dans le sermon sur la montagne, ce corps lumineux qui laisse voir le mystère de Dieu à travers des actions qui peuvent être très simples. Toutes simples. Il y a une quinzaine d'années, Mère Teresa avait écrit un article dans l'Observatore Romano sur la charité comme l'âme de la mission. En fait, l'expression était tiré de l'encyclique de Jean-Paul II sur la mission du Rédempteur, c'est-à-dire la mission de l'Église par rapport à l'évangélisation. Et donc, la charité âme de la mission, et elle donnait l'exemple d'une sœur qui était toute aux soins d'un malade, toute dans cet exercice de la charité concret, et un homme musulman qu'elle connaissait a vu cette sœur et est sorti en disant « Maintenant je crois que Jésus est Dieu, parce que j'ai vu tant d'amour dans les mains de cette sœur. » Elle a laissé voir la charité divine et à travers ses mains lumineuses, il y a quelque chose qui a parlé au cœur de cet homme et qui l'a ouvert à la foi au Christ. Ça n'empêche que la foi naît, comme dit saint Paul, de la proclamation, de la prédication, de la parole vivante, entendue. Mais si on se situe dans le cadre de la nouvelle évangélisation, c'est-à-dire dans des pays où cette parole a été entendue mais pas comprise, il faut penser que le témoignage de vie est essentiel parce qu'il s'agit de témoigner de la vérité de cette parole, de cet enseignement de l'Église, à travers une vie qui témoigne de la vérité de l'Évangile. Ça n'empêche pas une annonce explicite. Mais quand l'Église parle, quand pour Benoît XVI, la nouvelle évangélisation, c'est une évangélisation en profondeur qui laisse voir le vrai visage de Dieu, pas simplement en parole, mais d'abord par un témoignage qui puisse vraiment parler en profondeur au cœur de l'homme. Ici, je voudrais insister sur l'enseignement qu'a donné Benoît XVI sur cette question délicate pour nous, spécialement dans la communauté,
Parce que, de fait, une des grâces du renouveau charismatique a été de redécouvrir l'importance d'une évangélisation et d'une annonce explicite. Je voudrais simplement souligner que, depuis le péché originel, notre intelligence fonctionne par mode d'opposition et que nous ne sommes pas à l'abri de la tentation d'opposer l'annonce explicite et le témoignage de vie. Et inversement, d'autres ne sont pas à l'abri de la tentation. Je pense à ceux qui sont plus marqués par la spiritualité de l'action catholique, par exemple, de penser que le témoignage de vie suffit et qu'il n'y a pas, nécessairement à vouloir parler explicitement de Dieu, qu'il suffit d'être le levain dans la pâte et d'avoir une vie cohérente avec l'Évangile. Je voudrais que nous demandions à l'Esprit-Saint de nous aider à dépasser ça. Je voudrais vous citer des paroles lumineuses de Benoît XVI sur le sujet. La charité ne doit pas être un moyen au service de ce qu'on appelle aujourd'hui le prosélytisme. D'abord, la distinction que fait l'Église entre évangélisation et prosélytisme, endoctrinement. L'amour est gratuit. Et à ce sujet, je me reviens un témoignage de personnes bien intentionnées qui ont voulu faire une opération de charité, entre guillemets, pour évangéliser. C'était en Afrique, donc elles ont tout fait bien comme il faut, pensant que les gens allaient se convertir, et puis ça n'a rien donné. Ce qui témoigne de Dieu, c'est l'amour pur. Écoutez Benoît XVI, l'amour est gratuit. Il n'est pas utilisé pour parvenir à d'autres fins. Ça ne signifie pas toutefois que l'action caritative doit laisser de côté, pour ainsi dire, Dieu et le Christ. C'est toujours l'homme tout entier qui est en jeu. Souvent, c'est précisément l'absence de Dieu qui est à la racine la plus profonde, de la souffrance. Celui qui pratique la charité au nom de l'Église ne cherchera jamais à imposer aux autres la foi de l'Église. Attention aux petits calculs, attention aux tactiques, attention aux récupérations, attention au prosélytisme. On avance. Il sait que l'amour, dans sa pureté et dans sa gratuité, est le meilleur témoignage du Dieu auquel nous croyons et qui nous pousse à aimer. Aimer à pure perte. Aimer gratuitement. Aimer comme le Christ a aimé. J'ai envie de dire à cœur perdu. Croire en la charité, en la luminosité de l'amour, quand il est surnaturel, pur. Le chrétien sait quand le temps est venu de parler de Dieu et quand il est juste de le taire et de ne laisser parler que l'amour. Ça, c'est génial, ça. Ça, c'est de la grande théologie, ça. Il sait que Dieu est amour et qu'il se rend présent précisément dans les moments où rien d'autre n'est fait sinon qu'aimer. Essayons de ne pas opposer les choses, de croire à l'amour aussi dans ce domaine-là. Croire à l'amour par rapport à l'explosion atomique dont je vous ai parlé, qui est la puissance rédemptrice de la charité qui arrive à vaincre le mal du péché, à le purifier. Et croire à l'amour dans sa puissance lumineuse de lumière quand il est pur. Si ton œil est simple, si ton intention est pure, si ton cœur est pur, tout ton corps est lumineux. Ce corps lumineux parle de Dieu. Il dit Dieu au monde, il rend Dieu présent dans le monde. Ça n'empêche pas de rajouter une parole explicite dont notre intelligence humaine a besoin pour que nous puissions adhérer pleinement dans la foi. Mais rappelons-nous que quand même beaucoup de personnes que nous côtoyons dans notre milieu pas nécessairement fait le catéchisme, mais en tout cas ont des notions de christianisme, mais ce qu'ils refusent de croire, c'est que tout ça soit réel et que le chrétien vive vraiment quelque chose de réel. Donc c'est sur le terrain du témoignage de vie qu'ils nous attendent. Il y a n'y a qu'à voir la catastrophe que représente la pédophilie à l'intérieur de l'Église pour comprendre là où se joue la nouvelle évangélisation en profondeur, dans un monde qui refuse de croire en Dieu parce que aussi ce visage a été défiguré par le contre-témoignage. Ça, c'est Ratzinger qui a présenté les choses comme ça. Donc, que l'Église se laisse purifier par le Christ maintenant pour être plus lumineuse du vrai visage de Dieu, c'est essentiel, et que dans l'exercice de la charité, nous gardions bien présent dans notre cœur ce que Benoît XVI dit ici. Parce que je pense que c'est dans cette foi en la charité, en la puissance lumineuse de lumière de l'amour, le rayonnement, la splendeur du rayonnement de l'amour, que nous pourrons précisément en toute liberté discerner le moment où il faut parler. Ce n'est pas en étant crispé dans un vouloir évangéliser, en disant « quand vais-je pouvoir parler de Jésus ?» Quand j'étais aumônier à l'Hôtel Dieu, j'avais dans mon équipe une personne qui était à l'époque de la communauté, qui faisait partie des anciennes de la communauté, qui a quitté la communauté, mais qui revenait toute triste de ses visites aux malades en disant « aujourd'hui, je n'ai pas pu parler de Jésus ». Ce qui est triste, c'est qu'elle puisse soit rester là. C'est ça qui est triste. Si elle avait pu s'ouvrir à ces paroles de Benoît XVI, à l'époque, elle n'avait pas cette encyclique, mais si elle avait pu comprendre qu'en vivant gratuitement cette attention, et notamment cette écoute, par la qualité de son écoute, l'ouverture du cœur, par la compassion, par la présence à l'autre, par un exercice concret de la charité, laisser voir le Christ, ce serait éviter bien des souffrances inutiles, de ne pas avoir pu évangéliser. C'est quoi ça? Cette vision de l'évangélisation racornie, rétrécie. Bon. C'est... La référence, c'est au numéro 31. De l'encyclique de Benoît XVI. Donc je dis, dans cette foi en ce corps lumineux que Jésus veut nous donner pour que nous resplendissions de sa présence et de son amour pur, nous trouvons la liberté de parole et de discernement, chercher d'abord le royaume de Dieu, chercher d'abord la charité, le reste sera donné par surcroît, c'est-à-dire l'inspiration pour la parole juste au moment juste, étant toujours prêt à rendre témoignage explicitement. Mais c'est tellement délicat, l'âme. En fait, l'évangélisation, c'est l'œuvre du Christ. C'est humainement impossible de calculer la parole adaptée à une personne qu'on ne connaît pas, qu'on rencontre, et puis même si on croit la connaître, on ne la connaît pas vraiment, dans ce qu'elle vit au fond de son cœur, de savoir la parole qui pourra la toucher et la rejoindre. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut, c'est lui le protagoniste de la mission, comme l'a rappelé Jean-Paul II. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut nous inspirer la parole juste au moment juste, qui touche, qui vient juste, je dirais, rejoindre la personne là où elle en est dans son chemin de vie. Et donc, si nous ne sommes pas dans cet abandon, dans cette liberté, dans ce lâcher-prise, dans cette simplicité, tout disponible à l'action de l'Esprit Saint, parce que pas crispé dans un vouloir évangéliser, nous allons rater cette docilité à l'Esprit Saint, à l'Esprit de vérité, et nous ne saurons pas nous taire quand il faut nous taire et parler quand il faut parler. Voilà ma profonde et intime conviction, mais qui n'est pas simplement le fruit de ma propre expérience, notamment à l'hôpital, où j'étais dans un milieu laïque et où je rencontrais, pendant 10 ans, j'ai rencontré, moi j'ai fait du porte-à-porte pendant 10 ans, tu peux le dire, mais qui est le fruit d'une étude sérieuse de ce que le magistère actuel nous dit sur l'évangélisation. Jean-Paul II, à vrai dire, n'a pas insisté de la même manière sur le fait que qui voit la charité voit Dieu. Il a insisté, lui, sur le fait que l'évangélisation devait être renouvelée par la profondeur de la contemplation. Écoutez la manière dont il a pris les choses et le problème dans Novo Millennio in Ente, mais ça revient au même, vous allez voir. Il part de Jean 12, 21. C'est les Juifs grecs qui disent « Nous voulons voir Jésus ».
Cette demande présentée à l'apôtre Philippe par quelques Grecs qui s'étaient rendus en pèlerinage à Jérusalem à l'occasion de la Pâque résonne aussi spirituellement à nos oreilles en cette année jubilaire. Comme ces pèlerins d'il y a 2000 ans, les hommes de notre époque, parfois inconsciemment, demandent aux croyants d'aujourd'hui non seulement de parler du Christ, mais en un sens de leur faire voir. C'est ça le problème de fond, voir le vrai visage de Dieu, qui est amour. L'Église n'a-t-elle pas reçu la mission de faire briller la lumière du Christ à chaque époque de l'histoire, d'en faire resplendir le visage également aux générations du nouveau millénaire? Pour Jean-Paul II, c'est clair que la nouvelle évangélisation, c'est une évangélisation plus en profondeur. Ce serait vraiment être à côté des appels de l'Esprit-Saint de confondre notre manière d'évangéliser avec le prosélytisme agressif de certains courants religieux chrétiens que je ne citerai point.
Paul VI disait la même chose.
Donc faisons attention, parce que ce prosélytisme agressif qui est en train de transformer la géographie du christianisme, comme l'a dit Benoît XVI récemment, ne nous pousse pas à vouloir imiter en mettant notre confiance dans des techniques qui seraient des techniques de prosélytisme, pour ne pas dire de manipulation, alors qu'en réalité, de cette manière-là, on peut faire des adeptes, mais pas des convertis. Parce qu'on n'aura pas laissé voir le vrai visage de Dieu. Donc on n'a pas les mêmes moyens que les autres. Les sectes, elles fonctionnent d'une autre manière. Et elles, apparemment, elles gagnent, et ça marche bien. Mais ce n'est pas la fécondité spirituelle. On n'est pas appelé à se laisser entraîner sur ce chemin-là. Bon, je ne veux pas être trop dur, mais le terme de prosélytisme agressif, il est de Benoît XVI. De fait, on en voit quand même les dégâts dans certaines régions du monde. C'est pas de ça dont le monde a besoin. Oui.
C'est pas une interprétation détournée du témoigner à temps et à contre-temps que l'on a, je ne sais pas où, enfin, dans la parole, dans ces symboles, dans ce livre, je ne sais plus la référence.
Le père Étienne Kern, qui connaît bien la situation en Amérique latine, puisque là, c'est là que c'est le plus criant, prosélytisme agressif qui vient des États-Unis et qui a été organisé par le gouvernement américain pour détruire l'Église catholique en Amérique latine à cause de la théologie de la libération, en envoyant des milliers de prédicateurs qui réussissent à détruire en grande partie le tissu de l'Église, il en a parlé en Allemagne de ça, de ce problème-là. Prosélytisme agressif, le père Étienne Kern disait que c'était l'antichambre de l'athéisme. Parce que, hélas, beaucoup de ces personnes qui se laissent prendre comme ça, au bout d'un certain temps, ne trouvant pas de vraie nourriture, quittent toute religion. Alors ensuite, leur parler de Jésus, c'est terminé. Et ça rejoint le témoignage de frères qui étaient avant évangélistes, qui sont rentrés dans la communauté, qui m'ont dit que de fait, sur le long terme, au bout de 2-3 ans, on voyait que ça ne tient pas la route. Parce qu'en réalité, on n'a pas laissé voir le vrai visage de Dieu. Donc la distinction entre évangélisation et prosélytisme, dans la conscience actuelle de l'Église, elle est claire et nette. Ne nous laissons pas séduire par des succès apparents. Mais restons catholiques. C'est-à-dire croyons en la puissance de la charité. En dehors de la charité, je ne suis que cymbale résonante. C'est-à-dire des paroles qui parlent de Dieu, mais qui sont vides de lumière. Et alors, Jean-Paul II, lui, a présenté les choses ainsi. Si nous voulons parler du Christ d'une manière qui soit convaincante, il faut laisser voir son visage. Pas qu'il n'y ait que des paroles. Et comment notre témoignage se trouverait toutefois appauvri d'une manière inacceptable si nous ne mettions pas d'abord nous-mêmes à contempler son visage. D'où le Dukinaltum, le cri lancé par Jean-Paul II à l'Église pour le troisième millénaire, c'est-à-dire, le Dukinaltum, c'est aller dans la profondeur. Pour la nouvelle évangélisation, l'Église doit aller dans la profondeur. Et pour Jean-Paul II, ce aller dans la profondeur, c'est aller dans la profondeur de la contemplation, précisément. Nous avons besoin de voir pour laisser voir. On ne peut pas laisser voir le visage de quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. Vous voyez, ici, c'est une logique qui est la logique de la lune. Mysterium lunae. Jean-Paul II a utilisé cette image de lune que vous trouverez dans le catéchisme de l'Église pour parler du mystère de l'Église. Le soleil, c'est le Christ. Mais l'Église, c'est la lune. Elle brille de la lumière du Christ dans la mesure où elle est tournée vers le Christ. Elle reflète cette lumière. Le contemplatif, celui qui est en contact avec le mystère, dans ce regard simple, dans cet œil simple dont j'ai parlé hier, si ton œil est simple, tourné vers Dieu, si tu connais Dieu, si en réalité ça ne peut être que dans la charité, si dans l'amour tu connais Dieu, celui qui aime connaît Dieu, si tu vois Dieu, tu le laisses voir aux autres à travers tes actions qui naissent de ce contact, de cette contemplation. Mystère de la lune. Alors, à vrai dire, Jean-Paul II, dans son encyclique sur la mission du Rédempteur, qui est une encyclique sur l'évangélisation, parle déjà, donc c'est quelques années avant l'année sainte, parle déjà de cette question de la contemplation. Et dit que c'est notamment ses voyages en Orient qui l'ont convaincu que l'Église devait aller dans le sens d'un approfondissement de sa vie contemplative pour pouvoir être vraiment crédible et pour que l'évangélisation puisse se faire. Parce que l'Orient a gardé plus ce sens de la vie contemplative et d'une parole qui soit pas simplement rationnelle, intellectuelle, mais qui vienne du cœur et qui parle au cœur. Remarquez que c'était aussi le thème de son voyage en Angleterre à Benoît XVI, en reprenant le cardinal Newman avait comme programme, enfin entre guillemets, cor ad cor, loquitur, le cœur parle au cœur. Cette parole de Newman, c'est probablement pas de lui, ça doit être un proverbe, le cœur parle au cœur. Dire la vérité de son cœur, un cœur qui est tourné vers Dieu et qui voit Dieu avec les yeux du cœur, bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Un cœur qui voit Dieu parle au cœur de l'autre et touche son cœur. Heureux l'homme qui dit la vérité de son cœur, ce qu'il voit. Le témoin. Un témoin, c'est quoi dans la vie civile? C'est quelqu'un qui dit ce qu'il voit, ce qu'il a vu. On est témoin, on est vrai témoin du Christ dans la mesure où on dit ce que l'on voit avec les yeux du cœur. À ce moment-là, c'est la vérité de notre cœur que l'on dit. Et cette vérité de notre cœur parle au cœur de l'autre. C'est ça l'évangélisation. Sinon, c'est de l'endoctrinement. Oui.
Est-ce que quand, par exemple, il y a de l'évangélisation de rue, ça peut être considéré finalement comme ceci, un aspect extérieur que de l'endoctrinement?
Non, tout dépend de l'esprit dans lequel on le fait. Moi, je ne suis pas du tout contre l'évangélisation de rue. Je pense que c'est important qu'il y ait une annonce explicite, mais il faudrait qu'on soit beaucoup plus libre intérieurement, de penser que d'abord, nos visages, notre manière d'être et tout ça reflètent quelque chose. et qu'il s'agit d'être bien, bien unis au Christ, de bien d'aimer Jésus, de penser à lui et de garder Jésus présent à notre esprit, à notre cœur, d'être dans un vrai contact avec lui. Et à ce moment-là, Jésus lui-même nous inspire la parole qu'on doit dire. Mais en quelques mots, on peut convertir une âme si on est animé par cette vérité du Christ. Ce n'est pas une question de faire tout un langage calculé comme ça, dans lequel on cherche à convaincre les gens en étant un peu sous tension parce qu'on croit qu'on peut nous-mêmes évangéliser. Alors que l'évangélisation, c'est une œuvre de l'Esprit-Saint. Je vous disais hier qu'on perd beaucoup de temps à vouloir faire des choses qui ne dépendent pas de nous. On travaille, il faut être sage, c'est-à-dire travailler là où les choses dépendent de nous. Ce qui dépend de nous, c'est de travailler à la racine, de travailler sur notre cœur, de telle manière qu'ensuite l'Esprit-Saint puisse agir librement en nous et à travers nous. Quand on prend la place de Dieu, ben, il n'y a plus de place pour Dieu. Quand on croit pouvoir vaincre par ses propres forces, l'Esprit-Saint s'en va. Quand on évangélise de nous-mêmes, par nous-mêmes, en s'appuyant sur des techniques, c'est la fin. C'est le piège total. Ici, je vous rappelle ce que Benoît XVI a dit en Allemagne, hein, l'avenir de l'Église, ce n'est pas une question de tactique. Mais c'est une nouvelle manière de vivre, de penser et de vivre en profondeur la foi qui rayonne. Ça, encore une fois, essayons de ne pas fonctionner par mode d'opposition, ça n'empêche pas de souligner l'importance d'une annonce explicite dans un monde où, malgré tout, il y a bien des personnes qui n'ont jamais eu cette annonce aussi. Hein. On a affaire notamment à des jeunes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, donc c'est important, mais parions sur l'invisible, parions sur la fécondité spirituelle, et ici c'est une fécondité d'une lumière qui passe. Quand j'étais à Longchamp, et j'ai eu l'occasion de rencontrer, ben c'était quelques jours après en fait, un homme qui a été hospitalisé, et qui était lui-même à Longchamp en tant qu'éboueur, enfin maintenant on dit agent de propreté, mais il était sur son camion, il avait fait la Légion étrangère, il était complètement couvert de tatouages. Loin de l'Église, un peu plus loin de l'Église. Et il m'a dit, j'ai vu Jean-Paul II, j'ai vu la lumière. J'ai essayé de l'évangéliser, il n'y a rien qui rentrait, son esprit était loin de tout ça, loin de pouvoir comprendre. Mais il avait vu la lumière. Ça restera jusqu'à sa mort. Il a vu la lumière. Il sait quelque part que cette lumière existe. Un jour, il sera prêt à se convertir, bien sûrement. Il y a sûrement dans son cœur, je crois, beaucoup de colère, beaucoup de blocage qui fait qu'il n'était pas en état d'adhérer. Il y a beaucoup de choses qui le liaient encore. Mais voilà, un vrai témoignage avait été donné. Oui, Jean-Paul II était pénétré de ça, et dans son voyage aux États-Unis, il a repris cette pensée à propos de Newman, grand défenseur de la mission prophétique des laïcs chrétiens. Donc ça rentre tout à fait dans notre sujet. À ce sujet, Benoît XVI dit « Toutes nos pensées, nos paroles et nos actions doivent être pour la gloire de Dieu ». Voyant vos bonnes œuvres, vos belles œuvres, ils glorifieront le Père, et pour l'avènement de son royaume. Il a vu clairement qu'il ne s'agissait pas tant d'accepter la vérité par un acte purement intellectuel, que de l'embrasser dans une dynamique spirituelle qui pénètre jusqu'au cœur de notre être. Mais embrasser la vérité du Christ dans une dynamique spirituelle qui pénètre jusqu'au cœur de notre être, c'est précisément rentrer dans la contemplation.
La vérité est transmise non seulement par un enseignement en bonne et due forme, aussi important soit-il, mais aussi par le témoignage de vie vécue dans l'intégrité, la fidélité et la sainteté. Ceux qui vivent dans et par la vérité reconnaissent instinctivement ce qui est faux. Et précisément parce que faux, hostile à la bonté, à la beauté et à la bonté qui sont inhérentes à la splendeur de la vérité. Veritatis splendor, il cite l'encyclique de Jean-Paul II. Mais les personnes qui sont vraiment en quête de Dieu, qui vivent dans et par la vérité, qui sont des hommes de bonne volonté, ouverts, qui ont le cœur ouvert, d'instinct, ils reconnaissent une parole qui est pleine de lumière et une parole qui ne l'est pas. Ils reconnaissent ce qui est vrai et ce qui est faux. En laissant la lumière de la foi briller dans nos cœurs et en demeurant dans cette lumière, par notre union quotidienne avec le Seigneur, par la prière, par notre participation au sacrement de l'Église, nous devenons nous-mêmes lumière pour ceux qui nous entourent. Nous exerçons notre mission prophétique. Souvent, même sans le savoir, nous amenons les personnes un peu plus près du Seigneur et de sa vérité. Sans une vie de prière, sans une transformation intérieure, fruit de la grâce, des sacrements, nous ne pouvons, selon les paroles de Newman, faire rayonner le Christ. On peut traduire aussi, j'ai fait aussi une traduction, irradier le Christ. Nous ne devenons qu'une cymbale de plus en plus, qu'une cymbale de plus qui retentit. Sans la charité, je ne suis que cymbale sonore. Donc là, il reprend cette idée que le témoignage serait inacceptablement appauvri si nous n'avions pas ce contact intime avec le Christ. Benoît XVI a un sens aigu du fait que l'Église actuellement ne doit pas se comporter comme une grande machine. Au sens d'une organisation qui chercherait son développement, comme une grande entreprise qui chercherait à recruter pour être encore plus forte. C'est bien ce que recherche certains mouvements chrétiens, avoir de plus en plus d'adeptes et de plus en plus puissants. Elle dit, attention, c'est pas ça. L'Église ne travaille pas pour elle-même. Ici, nous sommes dans l'avion. Benoît XVI en voyage vers l'Angleterre. Une Église qui cherche surtout à être attirante ferait déjà fausse route. Parce que l'Église ne travaille pas pour elle-même. Elle ne travaille pas pour croître en nombre et ainsi augmenter son pouvoir. L'Église au service d'un autre, il y a un grand A. Elle n'est pas utile pour elle-même, pour être un corps fort, mais pour rendre accessible l'annonce de Jésus-Christ, les grandes vérités, les grandes forces d'amour, de réconciliation apparues à travers cette figure et qui viennent toujours de la présence de Jésus-Christ. En ce sens, l'Église ne cherche pas à être attirante, pas de racolage. Excusez-moi le commentaire. L'Église ne cherche pas à être attirante, mais elle doit être transparente pour Jésus-Christ. Dans la mesure où elle n'existe pas pour elle-même, comme un corps fort et puissant dans le monde, qui veut avoir du pouvoir, mais se fait simplement la voix d'un autre, avec un grand A. Elle devient réellement transparente dans la grande figure du Christ, pour la grande figure du Christ et les grandes vérités qu'il a apportées dans l'humanité. Alors à ce moment-là, l'Église est écoutée et acceptée. Elle ne devrait pas penser à elle-même, mais aider à penser à l'autre, quant à elle, voir et parler de l'autre et pour l'autre. Voyez, l'idée d'une Église qui se laisse purifier, qui se purifie aussi de toutes sortes de volonté de puissance, qui se nourrirait de tactique, du management, une grosse entreprise qui fait qu'on fait des choses qui marchent, qu'on exploite au maximum, en s'appuyant de plus en plus sur un côté organisationnel, d'une église qui, j'aime dire, aime à cœur perdu, un amour gratuit, parce qu'elle est consciente qu'elle doit, elle doit laisser voir au monde le vrai visage de Dieu, et que même si les gens ne vont pas jusqu'à une adhésion explicite au christianisme, même s'ils restent musulmans, même s'ils restent agnostiques, le fait qu'ils aient été en contact avec la lumière, avec le vrai visage de Dieu, est une semence profonde semée dans leur cœur qui fera son travail. Et ici, Benoît XVI a une très belle image. Il rappelle que la semence du royaume est comparable à un grain de sénevé qui devient un grand arbre et les oiseaux du ciel viennent se nicher dans l'arbre. Il est revenu au moins deux fois sur cette image pour dire que les oiseaux qui viennent se nicher dans l'arbre, c'est toutes les personnes qui, sans adhérer à l'Église au sens de s'inscrire, entre guillemets, dans les registres paroissiaux, se nourrissent du témoignage de l'Église. Et il reste dans le parvis du temple. Il reprend l'image que dans le temple de Jérusalem, il y avait un parvis des païens. Il dit que pour l'Église aussi, il doit y avoir un parvis. C'est-à-dire, l'Église ne doit pas travailler pour que tout le monde rentre chez elle, de travailler pour que tous les hommes puissent voir la lumière. Et on voit très bien, c'est un missionnaire dans les pays musulmans, me disant que vous voyez très bien la différence entre des pays musulmans où il y a une vraie présence chrétienne qui a rayonné, et puis des pays musulmans où il n'y a pas eu cette vraie présence. Il y a de fait une évangélisation qui se fait en profondeur, même si les personnes ne changent pas de religion. Ça aussi, c'est croire à l'amour, hein. Parce qu'on ne voit pas de fruits visibles nécessairement. La personne d'ailleurs, qui cite Mère Teresa, qui soignait son malade et qui a converti sans le savoir un musulman qui l'a vu soigner son malade, elle a probablement jamais su qu'elle avait converti quelqu'un. Voyez. Donc, j'aime bien cette idée de vraiment parier sur un amour gratuit, sans arrière-pensée, sans calcul, et puis de laisser l'Esprit Saint se servir de nous quand il le voudra pour une annonce explicite, mais de ne pas parier sur une puissance de conviction humaine, mais de laisser Dieu agir dans le secret des consciences. Voyez, je pense aussi, témoignage que nous donne Benoît XVI, d'une pureté dans l'action et dans l'action apostolique, dans le sens d'une fidélité à la vérité. Être lumineux, c'est être fidèle à la vérité de notre cœur et de notre conscience. Et le minimum de la charité, c'est la justice. Comme avait dit Paul VI, et Benoît XVI l'a repris. Si nous voulons être des témoins lumineux, il nous faut être fidèles à la vérité, même au prix de la souffrance. Et bien maintenant, pensez au piège dans lequel sont tombés, hélas, même des évêques. Par rapport au scandale de la pédophilie. Benoît XVI en parle. C'est une grande tristesse, une tristesse aussi que l'autorité de l'Église n'ait pas été assez vigilante, pas suffisamment rapide, ferme, pour prendre les mesures nécessaires. Pourquoi on n'a pas pris les mesures nécessaires? pour défendre l'organisation, pour défendre la maison. Puis on a aussi besoin de prêtres et bon. Puis on veut éviter l'occasion de scandale, comme on dit. Et le problème, c'est qu'on ne suit pas la justice. Ah, oui. Enfin, c'est pour la bonne cause. Ouais. On n'est pas fidèle à la vérité. Il y a un droit canonique. Puis il y a une justice civile aussi qui est juste. Et en cherchant à camoufler les choses et en pratiquant une politique à court terme de vouloir défendre l'Église de cette manière-là, on aboutit à l'exact contraire. Il faut d'avoir cru à la vérité, être resté fidèle à la vérité. Ouais. C'est quand même une bien rude leçon. Ton intention est simple, tu poursuis la vérité, même au prix, tu restes fidèle à la vérité, même au prix de la souffrance. Alors, ton action est lumineuse, laisse voir Dieu actuellement. On sait bien que des journalistes sont touchés par la vérité, le courage et l'humilité de Benoît XVI par rapport à cette situation. Vous voyez, quand Benoît XVI dit « l'Église ne travaille pas pour elle-même », et c'est en ne travaillant pas pour elle-même qu'elle est écoutée. Il faut vraiment aller jusqu'au bout d'une conversion de notre manière de voir les choses et de ne pas rentrer dans la logique des petits calculs humains, mais de croire jusqu'au bout qu'en restant fidèle à la lumière et fidèle à notre conscience, nous pourrons réellement produire un fruit qui témoigne du Christ et qui puisse sauver le monde, puisque, comme aime dire Benoît XVI, seule la vérité sauve.